Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être exemplaires, etc.
Bah oui, mais une manière assez différenciée en fonction de ce que l'on figure.
Évidemment, qui a une espèce de fierté, donc les premiers à être arrivés. Le reste se construire, de pouvoir, pour certains, être déçus de ne pas pouvoir aider les concitoyens jusque là où ils auraient voulu pouvoir l'être, en famille. Et sans doute, tout dont tu parlais, la science, sur la cité de RH, d'affaires à laboratoire, continuer à se tromper exprès en disant Gérard Collomb a fait venir les Chinois alors qu'ils savent très bien que c'est des Japonais, mais quand ils ont été réveillés moins, quand ils sont venus avec leur machin, alors qu'ils savent très bien que c'est des tablettes, du coup,
ils ont des plaques, ils les appellent des plaques.
Donc, oui, je pense que la saisie de ce truc-là est très nette pour tout le monde. Et voire même, c'est pointé comme étant problématique, justement, d'être dans du prototype, dans tous les sens du terme. En disant à la fois il y a une espèce d'aventure excitante, mais en même temps on voit bien que ça a des implications. Ça a à voir avec le dysfonctionnement et ça a à voir avec la difficulté de se situer dans cette ville aussi, où il y a beaucoup de, enfin, dans cette portion de ville où il y a beaucoup de festivals, le truc qui se passe, et que ça a tendance à faire partir des gens aussi.
Juste rajouter un des points limites de cette exemplarité, c'est la contre-exemplarité que dont je parlais tout à l'heure avec les animatrices de la MJC, qui vont du coup répondre à ce problème lié à l'exemplarité en essayant d'en construire une autre, qui est plutôt celle avec du modèle de l'écologie politique tel qu'elle le défend, en mettant en œuvre un jardin collectif, en prenant en charge la mise en place de composteurs dans le quartier. Ça me semble aussi un des points limites, puis c'est bon, où ça se retourne.
En fait, on travaille aussi sur la convivialité, en fait. C'est une conception de l'écologie qui est vraiment axée sur la convivialité dans le quartier, que pour elle, c'est précisément ce qui manque à cette ville-là, c'est tout ce qui est de l'ordre des possibilités de se rencontrer. Donc ça, c'est...
Ensuite, la deuxième question, c'est les traces qui restent et les frictions avec l'avant. Ça, on n'a pas développé ce qu'on appelle les poltergeists, les esprits frappeurs, comment on appelle ça, derrière les voûtes. Hein, parce qu'avant, je ne sais pas si vous présentez un peu Lyon, mais derrière les voûtes, c'est derrière la voie ferrée, en fait. C'est tout ce qui se passe derrière les voûtes. Vous avez la gare de Perrache qui coupe la presqu'île en deux. Et tout ce qui se passe derrière, quand on dit derrière les voûtes, c'est le...
C'est ce qu'il y avait la prison aussi.
Hein. Ah oui, la prison.
La prison, marché-gare... Et donc les trafics autour.
Et donc ça continue. Enfin, si on parlait de poltergeist aussi, enfin, si on a utilisé ce terme-là, c'est aussi pour faire exister ce passé-là dont on ne se débarrasse pas par une simple table rase. Quoi. Déjà, il y a longtemps eu encore là, ils ont vraiment quasiment réussi. Ah, mais non, il y a encore la prostitution. Il y a encore la prostitution. Donc ça, ils n'ont jamais vraiment réussi à enlever des pratiques de prostitution qu'il y avait à cet endroit-là, malgré tous les plans qu'a fait notre cher ministre de l'Intérieur pour pouvoir se débarrasser des prostituées. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus, sur les traces qui restent Et puis il y a toutes les mêmes.
Ouais. Vas-y. Ben, je ne sais pas comment dire. On rentre dans un de ces fameux appartements. Au début, les gens ne voulaient pas nous ouvrir parce que ils se méfient des représentants de commerce, puis dans un deuxième temps, ils nous identifient au fameux processus d'éco-rénovation, mais où très très vite on finit par boire le café. Ce qui est complètement fou, c'est sur le critique de la mise en œuvre du processus d'éco-rénovation, en disant, bien sûr, on aurait pu leur dire, nous, qu'ils auraient eu du mal à faire je ne sais plus quel aménagement, parce que, évidemment, c'était plein de cuves. Avec des eaux usées dedans, parce que, évidemment, c'était une tannerie. D'ailleurs, nous, on connaissait bien.
C'est le projet de géothermie. Il y avait un projet de géothermie.
Un projet de géothermie qui n'a pas pu se faire. Et donc, les traces, elles sont là. Ils continuent à raconter. Oui, quand ils ont construit l'autoroute, la 70, ça s'est passé de telle manière. Nous, ça fait qu'on a des problèmes d'infiltration ici, mais donc on a fait ça. Donc,
ce qui est amusant, d'ailleurs, dans cette histoire-là, c'est que, d'ailleurs, il y a eu un article il n'y a pas longtemps dans le Progrès sur le fait que c'est la cité Perrache, c'est le petit-fils de l'architecte des années 30 qui a fait l'éco-rénovation.
Ils
l'ont dit dans l'entretien, effectivement, et ils ne savaient pas qu'il y avait ces cuves, puisque lui avait prévu tout son projet. Donc la mémoire biographique des architectes n'avait pas pris cet élément-là, alors que la mémoire des habitants, elle, l'avait. L'histoire des...
En disant, mais il aurait bien dû savoir, puisque c'était
son grand-père.
Donc ça se retrouve, ouais, bon, je ne sais pas si c'est... Manière de répondre, de dire si, ça se trouve. Si, c'est bon.
Mais aussi, c'était aussi quel type de. Qu'est-ce que ça générait en fait? Est-ce qu'il y avait des accords sur ces traces? Est-ce que. Est-ce qu'il y en a qui sont pour que la prostitution reste?
Ça, pas trop. Hein,
voilà,
mais
ça, c'est le patrimoine négatif.
C'est le patrimoine.
Comme pour la pollution, il y a peu qui insiste sur le fait de la garder.
Mais c'est ce qu'on a dit, c'est quand dans la cité Perrache, ce qu'on a enregistré, c'est à travers le gardien, là, qui il y a plein de figures, quasiment tous les entretiens qu'on a fait là-bas, il n'y a pas une impossibilité de coprésence, si ce n'est, on nous raconte cette dame qui habitait au rez-de-chaussée, qui en avait marre que les prostituées pratiquent devant sa fenêtre, et qui finit par s'en aller, mais sinon, il y a toujours un lien qui est fait sur la multiplicité des usages possibles, sur... là où dans la ZAC 1, les discours étaient beaucoup plus tranchés entre le bon usager et le mauvais usager. Nous, on a identifié ça en fait comme justement une possibilité de continuité historique, là où à Confluence elle est quand même bien coupée. Après elle se reconstruit, hein, je pense qu'elle n'est pas. Elle se reconstruit malgré tout, mais c'était assez net quand même la différence où on fait cohabiter des usages complètement différents dans la cité Perrache. On arrive tant bien que mal, même si on en souffre, même si à faire tenir le quartier. C'est l'anecdote que raconte Yanis où le rodéo, ils font du bruit le soir, oui, mais tu préfères qu'ils fassent un rodéo avec ta voiture. C'est vraiment, en fait, oui, mais regarde, en fait, ça pourrait être pire, donc on tient là, on habite là. Là où à la cité, c'est beaucoup plus. Les discours vraiment racistes, par exemple, à la ZAC, ou de vraiment de choc des civilisations, on a eu des discours beaucoup plus tranchés là-bas.
Et assez systématiquement.
Et assez systématiquement aussi. Et ensuite, c'était les discours, les visions du futur. Prophétique.
Bon, par exemple, le type du ciel, là, il disait que pour lui, on verra dans 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a la perception pour certains des habitants d'être dans la construction d'un futur. Et avec la question de la suture avec le reste de la ville. C'est ça le gros enjeu pour les gens qui se posent la question. C'est, est-ce que ça va enfin se mettre à circuler, sachant que c'est un vieux problème? Passer derrière les routes, c'était des... Est-ce que là, ils vont réussir à créer cette liaison et à donc étendre le cœur de ville.
Et pour la cité Perrache, c'est en fait, ça c'est un des trucs qu'on a bien noté, c'est que quand on parle d'adaptation secondaire pour la ZAC 1, la cité Perrache, c'est un des trucs qui a vraiment émergé de l'enquête, c'est adaptation. On parle d'adaptation continue, puisque finalement, en récupérant les discours des gens, c'est qu'en fait, on leur a constamment demandé de s'adapter. La rénovation de 94, elle était imposée déjà. Enfin, je veux dire que c'est des politiques très top-down où on leur a toujours demandé de s'adapter. Et finalement, leur projection, eux, dans le futur, c'est on va continuer à s'adapter, comme on l'a fait avant. J'ai fait construire ma propre chaudière. Et c'est pour ça qu'ils sont autant énervés. Parce que j'avais trouvé des modes d'adaptation précédemment qui me permettaient d'eux, et là, qui sont mis à mal. Mais en fait, il y a cette sorte d'adaptation continue, ce qui est aussi paradoxal, puisque c'est pas de l'immobilité, c'est pas... Yanis a insisté sur le fait que c'était pas de l'immobilité, c'est pas non plus une incapacité, parce que on aurait vite fait de les mettre comme les vieux qui sont incapables de s'adapter. Non, en fait, c'est précisément l'inverse. Ils n'ont fait que s'adapter depuis le début. Et finalement... ils s'adaptent, je veux dire, même la tonalité change au fur et à mesure qu'on fait l'entretien. Il y a des dames avec qui on fait un entretien, qui est une de celles qui a créé le collectif, qui n'a pas duré très longtemps, d'opposition à la rénovation, on s'aperçoit, on va la revoir la deuxième fois, elle est déjà moins en colère, elle a juste peur de comment ça va se passer, enfin, c'est plutôt de la peur. Et là, elle nous explique qu'en fait, 5 ans auparavant, elle était à l'initiative d'une pétition qui demandait la rénovation. Là aussi, encore un retournement, quoi. Voilà.
Sur les aspects de transition, enfin de la question de la coexistence de différents niveaux, bah en fait, si on recueille ce que c'est que le discours sur la panne ou le dysfonctionnement du système de ventilation, de VMC double flux et de chauffage, et ben, il y a un empilement de géopolitique, de questions climatiques, des forêts en Ukraine, la tempête, tel prix, tel machin, jusqu'à comment ça s'est trouvé à cet avis-là, enfin, les alignements de différentes échelles, c'est... Enfin, je crois que c'est bien, il n'y a pas de scène vocale, c'est aberrant de le voir comme ça, ouais. De toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours diffracté, il suffit de faire un peu gaffe à ce qui est raconté.
Oui, si on ne saucissonne pas ce que nous racontent les gens, en thématique qui serait des thématiques externes, des chercheurs qui les projettent sur. Ouais. C'est, on a constamment cette espèce d'imbroglio qui mêle les entités. En fait, c'est la parole habitante qui est l'opérateur de connexion entre les étages. Et on a sauté la question d'avant, là. C'est comme Lisanne sur le halo. Ouais, bah tiens, vas-y. Oui.
Est-ce que c'est comme une VAD bah non, parce que.
Ah, mais ce serait sur la fonction, ou sur le. Pas sur la fonction, la valeur quoi, du dysfonctionnement.
Ouais, mais ce qui est. À un moment, ça nous a quand même interpellé. On nous parle de ville intelligente et tout le monde nous dit que c'est stupide. Et donc, qu'est-ce qui marche quand même, quoi. Ce qui marche quand même, c'est que même au travers des dysfonctionnements, il y a une orientation qui est prise petit à petit. Et c'est là que ça a à voir, enfin, tu me rappelles pas, mais c'est l'idée de la hantise par les smart people, c'est faire cette présence-absence, elle est réelle, quoi. Je sais pas comment dire, comme pour les éco-citoyens, ils sont pas là, sauf qu'ils sont quand même suffisamment entendus pour que les gens se posent attendus pour que les gens se posent la question de leurs gestes, les tablettes, c'est un peu pareil. Ben non, bien sûr, on les utilise pas, mais bon, elles sont quand même là. Et puis,
c'est l'idée aussi que les infrastructures, elles incluent les comportements qui vont avec. Et que quand bien même les usagers vont rigoler, se moquer, la tablette, elle est quand même dans tous les placards. Finalement, Toshiba, on a regardé un peu l'analyse des résultats qu'en faisait Toshiba, même s'il y a une fraction minime des habitants, ils en font une analyse. Il y a une reprise de la part de Toshiba de ces données-là qui a une certaine efficience. Donc, il y a un efficace aussi lié à la simple transformation infrastructurelle et sensible de l'environnement. Hein, c'est ça un peu.
Oui, c'est que pour nous, la ville intelligente, c'est l'ordre de cette espèce de halo autour des dysfonctionnements, mais qui, d'une manière ou d'une autre, commence à donner une inclinaison à son prochain horizon. Après, s'il n'y a pas vraiment, je pose la question de la ZAD, c'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment un point où les gens font complètement autre chose, ben, en fait, non.
Après, ça veut bien dire qu'il y a de l'émancipation partout. Là où c'est juste ton intuition, c'est qu'on voulait bien montrer, nous, après avoir fait plein d'enquêtes sur nos buts de rénovation urbaine, où nous-mêmes, on choisissait un peu les collectifs qui nous semblaient intéressants parce qu'ils étaient, la coordination des habitants de Montreuil qui t'opposaient à l'éco-quartier. On pourrait citer l'allée d'Antière, on en parlera cet après votre exposé, qui est un quartier de Dijon qui a été repris par les habitants pour faire du maraîchage. Mais nous, on est des chercheurs qui définissent les bons sites d'émergence de là où il y avait de l'émancipation. Et c'est vrai qu'en faisant cette enquête, on s'est dit, bon, allez, est-ce que là, dans le cœur de la bête, un peu, on ne va pas y trouver aussi des formes d'émancipation Et ça n'a pas manqué, effectivement. On a trouvé, même y compris dans tout ce que ça peut avoir d'épouvantable, conseil de copropriété en termes de micro-gouvernement, ce qui est un peu laissé à part les féministes, il y a quand même quand ils arrivent à obliger le changement des stores, il y a de la politique.
En fait, plein d'options.
Passage d'un type à l'autre.
Bah, déjà, passage d'un type à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire correspondre terme à terme figure et certains individus en fait. Par exemple, je sais pas, la fameuse dame au chien, elle est pionnière dans le sens où elle adore voir une nouvelle réalisation et qu'elle se désole du fait que les commerces ne prennent pas. Elle est récalcitrante au sens où on a bien vu qu'en fait ça ne prenait pas, tout ce que ça veut dire ceci, cela, et en même temps elle va être ange de la médiation parce qu'elle fait le lien entre tout le monde, entre ses trois chiens, et qu'elle prend des nouvelles du cantonnier qui lui fait le nettoyage. Donc en fait, c'est pas de.
Oui, mais j'imagine que tout le monde n'est pas de manière équivalente.
Non.
Mais donc, en tout cas, t'as certains cas où c'est, on voit ces trucs-là pivoter. Et après, sur le passage de l'un à l'autre.
Est-ce qu'il y a des tendances, quoi, disons.
Il y a des personnes qui viennent en mémoire comme pouvant incarner.
Vous avez fait votre travail sur combien de temps?
C'est
deux ans.
À peu près deux ans.
Ouais. Après, il y a peu de gens avec qui on a fait plusieurs entretiens. On a fait beaucoup d'entretiens. Bah, quelques-uns, parce qu'il y a
deux, trois.
Mais des fois, par le biais d'autres habitants, on peut entendre un tel, pendant trois ans, il nous a seriné à propos de ça, et puis en fait, bon, on s'aperçoit que, voilà.
Ah oui.
Du coup, des témoignages.
Ça se passe de gens qui sont très impliqués dans l'espèce de résistance à l'éco-innovation, qui finalement déménagent à la confluence, à l'endroit où tout.
Par contre, ce qui est assez net, c'est dans toutes les figures, et ça, on l'a pas du tout. Mais en creux, il y a des définitions de l'écologie qu'on n'a pas du tout développées, mais c'est quasiment un chapitre entier de notre rapport. Il y a des écologies complètement différentes. Alors, on a un peu dit sur la MJC avec cette écologie militante, mais il y a des conceptions de l'écologie radicalement différentes qui se donnent à voir de manière sur un mode mineur ou sur un mode majeur. Hein, des écologies très ordinaires. Là, c'est un des. Le type du CIL, ou la famille Monet, enfin une famille qui a par ailleurs, qui est concernée par l'éco-rénovation et qui a par ailleurs un jardin. On s'aperçoit au fur et à mesure dans l'entretien qu'elle a un jardin dans le 7e arrondissement de Lyon, un jardin ouvrier où elle fait des abeilles, pousser des trucs. Par ailleurs, ils ont une maison de campagne où là, ils ont eux-mêmes rénové tout. Ils font la coupe de bois dans les communs de leur village, avec leurs voisins. En fait, ils nous redéfinissent une écologie complète qu'ils prennent en charge d'eux-mêmes. Quoi. Mais ça, c'est en avançant dans l'entretien qu'on commence à comprendre. Et en fait, ça, il y a plein de des figures qui, en creux, ont une définition différente de l'écologie, plus affirmative, plus positive, en creux de la critique.
Et puis, dernier truc sur les adaptations aux adaptations, bah, le cas justement de l'éco-rénovation de la cité Perrache, il est assez. C'est complètement pris en compte le travail de la chargée de mission qui commence à permuter et qui dit non, mais en fait, cette histoire de tout faire pareil, c'est pas possible, et etc. Je crois que ça.
On a raconté tout à l'heure. C'est sur la perruque, là, c'est ta question sur la perruque et la dialectique contremaître ouvrière.
Et puis, il me semble que c'est assez central dans le travail d'une espèce de commission à la Maison des Confluences qui cherche à promouvoir l'éco-rénovation, mais pas dans les endroits qui peuvent complètement piloter, type une cité HLM, mais en faisant appel en gros au volontariat des différents copropriétés. Ils ont bien intégré que ça prendrait du temps, et par exemple, on voit que. Sur une espèce de démarche au ras du truc. Il me semble que dans ce genre de dispositif là aussi, il y a cette espèce de prise en compte.
Il y avait une question quand même sur la sortie de la critique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a qui sont fatigués de la critique et qui sortent finalement de période de critique et qui. Soit pour préserver les relations communes, soit.
Il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, puisque la fameuse, le fameux collectif d'habitants en lutte contre s'est complètement explosé en plein vol pour des raisons de cet ordre, puis pour d'autres.
Oui, parce que la présidence a disparu du jour au lendemain, ouais. Il est parti avec la caisse.
Il est sorti de la critique.
Il est sorti de la critique. En courant.
Il nous a l'air de se passer comme ça. C'est...
Non, mais de manière générale, un des trucs, peut-être on l'a pas suffisamment donné à voir, mais en fait, nous, pendant 2 ans, tout ce qu'on entend, c'est en fait, mais ça va pas, la confluence. Il n'y a rien qui franchit le seuil du public. C'est-à-dire, tout ce qu'on a recueilli, ça ne franchit jamais le seuil du public, et le seul moment où ça le franchit, c'est ça part, enfin, les habitants de la cité Perrache, le cri qui crée, leur, ben, en fait, ça s'étiole complètement au bout de quelques mois. Et en fait, là, il y a quand même un indice du fait que la critique, elle ne passe jamais. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la... On n'a pas envie de dire du mal du quartier dans lequel on... Enfin, on a quand même par ailleurs la distinction, l'expérience distinctive, et puis quand même, on est des pionniers. Je ne sais pas à quoi c'est dû ça, mais enfin, la critique ne franchit jamais un cap qui est celui... Elle reste dans les collectifs de copropriété, elle reste... les suites de la critique, c'est des règlements juridiques, c'est des... C'est le travail du droit, enfin, c'est des...
Oui, et puis en fait, il y a beaucoup de discours hyper paradoxaux, en fait, de « ça va pas du tout, mais qu'est-ce qu'on est bien ici ?»
Ah oui,
puis, en fait,
aussi.
C'est dans des mêmes phrases, ben, on retrouve tout contenu, quoi. Donc...
Ah oui, ça c'est vrai. Il y a vraiment des entretiens qui sont d'une ambiguïté, mais vraiment splendide, où « ah, mais regardez le Vaporetto, vous savez, c'est la navette qui fait « ah, mais j'adore vivre là, il y a le Vaporetto qui passe en bas, puis là, le mari technicien qui passe derrière. Là. » Enfin, oui, mais enfin, tu pourrais quand même parler de l'isolation qui tombe. « Oui, oui, mais on est bien. »
Donc, il y a bon, des... c'est vrai que...
bon, c'est vrai que... Ah, mais quand même...
La terrasse a été coulée pour faire face au fait que tout se fait arracher par le vent, mais c'est vraiment très bien. Attachez-vous.
Ah, oui, et ben, alors, oui, c'est vrai, le problème du vent, non, mais alors, on a fait appel à un technicien qui construit des serres spéciales pour les milieux venteux. Donc, ah, et puis on a construit une porte entre la terrasse et le balcon, et depuis, ça va beaucoup mieux. Ah, et puis bon, aussi, on a changé toutes nos plantes, et puis on a mis des plantes adaptées au vent. Elle nous requalifie au fur et à mesure l'espace qu'elle a elle-même adapté pour le rendre habitable. Puis ça finit même en retournement total. Elle dit ah mais la face nord qui normalement ah ben la face nord il y a pas de vent. Alors les plantes elles s'y plaisent avec la réflexion. Mais, ah là c'est magnifique. Donc oui non mais bon du coup c'était le truc de l'infra public quoi. On est toujours dans une plainte qui est une proto à l'air. Que chez Torino appelle les proto-alertes. On passe jamais sauf un tout petit peu avec la rénovation de la cité Perrache, mais il y a quoi ? Il y a 2 articles dans le progrès sur les 5 ans. Sinon, tous les articles, on s'est fait tous les articles du progrès depuis le début, c'est que, aussi quelques trucs sur les problèmes de circulation, les modes doux à la confluence, ça marche pas, top. Mais sinon, c'est que du marketing urbain, quoi. C'est que ce projet extraordinaire, fantastique. Il n'y a rien qui franchit l'arène publique.
Après, sur les gens de la cité de Perrache, quand tu es en logement social, de toute façon, tu te fais balader là où on te met, quoi. Enfin, il y a aussi cette résignation, notamment pour les gens qui ne sont pas les anciens, qui ont toujours vécu là, qui ont construit leur
quartier. Ah oui, ça, c'est vrai.
Tu es ventilé, on dit tu te mets un peu ailleurs.
C'est ceux qui échappaient d'ailleurs à notre dispositif d'enquête un petit peu aussi, qu'on avait du mal à, autant ceux qui étaient là depuis longtemps, ils se faisaient un plaisir quand même. Il y avait une méfiance, une première méfiance,
hein.
Ils avaient du temps et puis ils se faisaient quand même un plaisir de parler de là où ils vivent. Autant toute une partie des gens qui habitaient là, qui étaient là en transit en fait, peut-être ça correspondrait un peu à la figure que décrit Yanis, de gens qui sont en logement sociaux mais pas attachés à l'espace de la ville.
Et puis il y a le fait massif de la ville en chantier, le truc il est en train de se faire, donc on peut critiquer, mais en fait c'est en train d'advenir. Donc... Mmh. Ouais, tout le monde est un peu embarqué.
Bien, donc on pourra, là c'est uniquement Martin qui a posé des questions, on pourra leur poser des questions, on commencera l'après-midi avec nos questions à nous. Et donc on se retrouve à 14h, alors les invités... Et donc au restaurant qui est un peu plus bas dans la rue, mais on a réservé 10 places pour ceux et celles qui voudraient s'accompagner. Le restaurant ne sera pas payé, mais...